Préparez-vous, préparez-vous à recevoir la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Préparez-vous, préparez-vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Préparez-vous.
Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie.
C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu, Amen. L'heure de la vérité, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'heure de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Connectez-vous toujours très nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. L'heure de la vérité, c'est aussi votre émission de la solution. Ah, vous. Tous vos problèmes, la solution se trouve uniquement en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Connectez-vous très nombreux et recevez la délivrance, recevez la vie. Surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen.
Très chers auditeurs, très chères auditrices, mesdames et messieurs, vous ne vous êtes pas du tout trompés et comme vous l'avez suivi, vous êtes bel et bien à l'écoute de votre très chère émission, l'heure de la vérité. Nous bénissons vraiment le Seigneur qui nous accorde ce merveilleux privilège d'honorer ce énième rendez-vous que nous avons avec la vérité biblique. Rassurez-vous, vous avez vraiment très bien fait d'être à l'écoute à cette heure-ci parce que ce n'est pas en vain que le Seigneur nous accorde encore cette grâce, non seulement d'être parmi les vivants, mais surtout de passer un peu de notre temps dans sa sainte parole. Pour vous servir une fois de plus, tout près de moi, mon bien-aimé frère dans le Seigneur Yannick, et quant à moi, Je suis, je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur. Vous êtes toujours très nombreux à être à l'écoute de cette émission. Soyez vraiment bénis abondamment dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus. Je pense particulièrement à toutes ces multitudes qui sont si nombreux à nous écouter de l'autre côté de la prison. Et je voudrais aussi rendre grâce au Seigneur pour Mani Adeline qui a mis au monde une très jolie fille. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour cela et que le Seigneur les bénisse abondamment, bien entendu, Tani Henry et aussi le bébé. Frère Yannick, Une fois de plus, tu as honoré le rendez-vous de ce jour. Ça n'a pas été si évident. Amen. Sois vraiment béni au nom du Seigneur Jésus.
Amen, bien-aimé. Je vais profiter pour bénir tous ceux-là qui sont vraiment connectés. Et pour les dire aussi que rien n'est plus merveilleux que d'être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir pour ce moment. Nous te bénissons pour ces multitudes qui sont à l'écoute. Merci de prendre le temps de contrôle. Merci de bénir ta parole. Merci d'ouvrir notre entendement et notre compréhension. Merci de nous assister. Et que toute la gloire et les honneurs te reviennent à toi et rien qu'à toi seul. Amen.
Amen.
Nous allons continuer tout simplement à nous intéresser aux préoccupations des multitudes. Oui, comme je le disais la dernière fois, c'est toujours important à un moment donné de s'intéresser aux questions et aux préoccupations des multitudes. Et des questions, il y en a vraiment abondamment. Et la première question qui a été posée et que nous allons nous intéresser directement à la lumière des Saintes Écritures, c'est qu'est-ce que l'huile d'onction? Qu'est-ce que l'huile d'onction? Puisque nous entendons souvent parler d'huile d'onction, et dans beaucoup d'assemblées, il en est également question de l'huile d'onction. Qu'est-ce que c'est? Mesdames et messieurs, avant de répondre à cette question à la lumière des Saintes Écritures, nous vous donnons l'opportunité et l'occasion de vous installer confortablement.
En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant.
En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis.
Pour ceux-là qui viennent juste de se connecter, vous êtes à l'écoute de l'heure de la vérité. Et comme promis, nous allons continuer à nous intéresser aux questions des multitudes. Donc cette émission, une fois de plus, c'est une émission question-réponse. Qu'est-ce que l'huile d'onction? Dans beaucoup d'assemblées, on utilise l'huile en disant que c'est l'huile d'onction. Et on n'applique cette huile sur des personnes en les disant que c'est l'huile d'onction. Mais est-ce que c'est vrai? La plupart des temps, l'huile que l'on utilise dans beaucoup de milieux religieux en disant que c'est l'huile d'onction, en réalité, à la lumière des Saintes Écritures, cela n'a absolument rien à voir avec l'huile d'onction. Nous allons remonter à l'origine de l'huile d'onction. Nous sommes dans Exode chapitre 30. Une fois de plus, vous êtes appelés à avoir un stylo et sur quoi noter. Et après, vous pouvez prendre tout votre temps pour vérifier tous ces versets que vous avez relevés. Parce que nous ne sommes pas là juste pour distraire les gens, mais pour les amener vraiment à connaître certaines choses, étant donné que cette émission, c'est l'heure de la vérité. Nous sommes dans Exode chapitre 30, à partir du verset 22 au verset 33, que je vais lire rapidement pour nous tous. C'est juste pour vous montrer l'origine de l'huile d'onction dans les Saintes Écritures. Il est écrit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tu oindras Aaron et ses fils, tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ça sera pour Israël, et tu diras, ça sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Verset 32, on n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Verset 33, quiconque en composera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Amen. Nous voyons ici dans cette portion des Saintes Écritures que Dieu avait donné une composition spéciale concernant l'huile d'onction. Et il avait donné une interdiction formelle que personne ne devrait faire une composition pareille. Et on ne devrait pas utiliser cela n'importe comment. Donc, nous voyons que l'huile d'olive que les gens utilisent en disant que c'est l'huile d'onction, en réalité, c'est faux. L'huile d'onction, selon les Saintes Écritures, Dieu avait donné une composition spéciale. Et de nos jours, ce n'est pas facile que les gens puissent faire la même composition. D'ailleurs, c'était formellement interdit. Donc, que l'on ne vous trompe plus en vous vendant l'huile, soit l'huile d'olive, en disant que c'est l'huile d'onction. Parce que nous voyons dans certains milieux, certaines personnes qui achètent une bouteille d'huile d'olive et en les mettant dans des petits flacons, en les vendant à des prix exorbitants aux gens, en les faisant croire que c'est l'huile d'onction. Et ainsi, on leur dit qu'ils doivent utiliser cela chez eux, ou dans leur maison, et que sais-je encore. Et c'est tout simplement de l'arnaque et de l'escroquerie. Parce que l'huile d'olive, à la lumière des Saintes Écritures, n'est pas l'huile d'onction. Que cela soit vraiment très très clair. Et Dieu avait demandé que cette huile d'onction soit composée pour un but spécial, à savoir oindre tout ce qui était dans le sanctuaire, et particulièrement Aaron et ses fils qui devaient également servir en tant que sacrificateurs. Et lorsque nous lisons les Saintes Écritures, que l'huile d'onction avait pour but de sanctifier et surtout de consacrer, rendre saint et consacré à Dieu. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous rendrons compte que toutes ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. De nos jours, c'est le Saint-Esprit qui a remplacé l'huile qui avait pour tâche dans l'Ancien Testament de sanctifier et de consacrer. Dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous dit clairement que dans l'Ancien Testament, beaucoup de choses, j'insiste beaucoup à ce niveau, beaucoup de choses étaient l'ombre des choses à venir, l'ombre dont la réalité est tout autre en Christ. C'est pour dire, par exemple, dans Philippiens chapitre 1, le premier verset, je vais profiter également à partir de ce verset et ouvrir une petite parenthèse. Nous sommes dans Philippiens chapitre 1, le verset 1. Frère Yannick, si tu trouves cette portion de Sainte Écriture, tu vas lire pour nous tous. Pendant ce temps, je vais chercher 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9 au verset 11. Philippiens 1, verset 1er. Si tu as la page, tu peux lire pour nous tous.
Il est écrit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe.
Alléluia. On peut s'arrêter d'abord là. L'apôtre Paul et Timothée adressent une lettre à l'église qui est à Philippe. Il dit à tous les saints. Donc, l'église du Seigneur qui était à Philippe, l'apôtre Paul et Timothée les considèrent comme des saints. Ce n'est pas parce qu'on les avait oint avec une certaine huile qu'ils étaient saints. Ils étaient tout simplement saints parce qu'ils avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire que c'est qu'on nous chante souvent à la radio, à la télé, en disant que certaines personnes qui sont mortes, on doit maintenant les canoniser en les considérant comme des saints. C'est de la comédie. Ça n'a rien à voir avec les saintes écritures. Tous les chrétiens sont les saints. Saint veut dire quoi? Tout simplement consacré à Dieu et mis à part pour le Seigneur. Parfois, on donne à ce mot un autre sens. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Bien qu'ils soient dans le monde, ils ne vivent plus selon le train de ce monde. Et de ce fait, ils sont mis à part pour le Seigneur, pour servir le Seigneur, bien qu'étant dans le monde, où tout le monde n'est pas chrétien. C'est ce que veut dire saint, c'est-à-dire séparé du monde profane et mis à part pour le Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui vient dans le cœur du croyant, qui le met à part pour le Seigneur. Et si nous lisons par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9 au verset 11, Frère Yannick, si tu as la part, tu peux également lire pour nous tous.
Il est écrit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pour le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen.
Amen. Ici, c'est une lettre que l'apôtre Paul adresse aux Corinthiens. Il leur dit que autrefois, ils étaient des idolâtres, des débauchés, des adultères, les efféminés, les homosexuels, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs. Et il dit bien que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et il signale tout de même que quelques-uns des Corinthiens qui étaient toutes ces choses-là, ou bien qui pratiquaient toutes ces choses qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu, et qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, il dit clairement que c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. Donc, vous avez été sanctifiés. Ce n'est pas parce qu'on les avait oints avec une certaine huile d'onction. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui désormais sanctifie les hommes. Dès qu'un homme croit, le Saint-Esprit le sanctifie, c'est-à-dire le met à part pour le Seigneur. C'est ce que veut dire désormais saint dans la nouvelle alliance. Mis à part pour le Seigneur, étant consacré le même jour qu'on a accepté le Seigneur Jésus, parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. D'ailleurs, toujours dans l'épître de Paul aux Corinthiens, cette fois-ci sa deuxième lettre, nous sommes au chapitre 1er, les versets 21 et 22 de Corinthiens. Chapitre 1er, les versets 21 et 22. Frère Yannick, si tu as la parole, tu vas également lire pour nous tous.
Il est écrit, « Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Amen.
Alléluia. La Bible nous dit clairement ici que celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, oint donc oindre, c'est Dieu, lequel nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Donc c'est Dieu qui désormais oint les gens, pas avec de l'huile, mais avec son Esprit Saint, lorsqu'il croit en lui. C'est très, très important. Donc, que personne ne vous arnaque plus, ne vous abuse plus en vous vendant un petit flacon d'huile, soi-disant que c'est l'huile d'onction à des prix exorbitants. Vous n'en avez vraiment pas besoin, très chers auditeurs, très chers auditrices qui êtes en contact avec Nous sommes là pour partager la parole de Dieu selon les vérités bibliques afin que des multitudes soient vraiment éclairées et soient délivrées. Cette autre question qui tourne autour de la prière, c'est est-ce qu'on peut prier en invoquant le sang de Jésus ou le feu? Est-ce qu'on peut prier en invoquant le sang de Jésus ou le feu? Nous allons tout simplement répondre en nous tournant vers les Saintes Écritures. D'abord dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 9 au verset 11. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9, 10 et 11, frère Yannick, si tu as la page, tu vas lire pour nous tous.
Il est écrit, « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Parole du Seigneur.
Amen. Dans cette portion de Sainte Écriture, particulièrement au verset 11, il est écrit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Voilà un verset où la Bible nous parle du sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que les chrétiens ont vaincu le malin, le diable, avec son armée à cause du sang de l'agneau. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, les hommes sont sous l'influence démoniaque, satanique, sont oppressés, tout simplement parce qu'ils vivent dans le péché. Et le diable étant cette personne qui est le père du mensonge, qui est celui qui aime voir les gens dans le péché, parce que c'est au travers des péchés que nous commettons qu'il a accès dans nos vies. Mais dès qu'un homme reconnaît ses péchés et accepte le Christ comme Seigneur et Sauveur, ses péchés sont désormais pardonnés et effacés. Et ainsi, le diable ne peut plus s'appuyer sur sa vie passée ou sur ses péchés pour pouvoir l'opprimer et l'oppresser. Ainsi, le chrétien né de Dieu, né de nouveau, habité par l'Esprit de Dieu, a vaincu le malin. Pas parce qu'il est très fort, tout simplement à cause de Jésus, parce qu'il a versé son sang. Non seulement pour effacer ses péchés, mais pour également lui donner son Saint-Esprit, et également pour lui donner accès direct au trône de Dieu et aux différentes grâces du Seigneur. Ainsi, on peut dire que cette personne qui a accepté le Christ a déjà vaincu le diable, le malin et tout son ami à cause de Jésus qui a versé son sang pour lui à la croix, à cause du sang de l'agneau. Et la question c'est, peut-on invoquer le sang de Jésus lorsqu'on prie? Particulièrement pour se protéger ou bien pour protéger nos maisons et toutes sortes de choses. Parce qu'il y a parfois des gens qui prient lorsqu'ils prennent un véhicule en disant « J'invoque le sang de Jésus sur ce véhicule, je plonge la maison dans le sang de Jésus. » En vérité, ces genres de prières, il n'y a pas un seul exemple dans les Saintes Écritures. Dans Hébreux chapitre 9, à partir du verset 18 au verset 22, la Bible va nous parler particulièrement du sang des animaux qui étaient sacrifiés même dans l'Ancien Testament. Et lorsque nous allons lire, nous allons comprendre que même dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne, qui était l'ombre des choses à venir, les animaux qui avaient été offerts en sacrifice, ce n'était pas du tout pour protéger les gens, pour protéger les maisons ou quoi que ce soit. C'était pour un but bien précis. Frère Yannick, si tu es à la page, tu vas lire cela pour nous tous. Sommes dans Hébreux chapitre 9, à partir du verset 18 au verset 22.
Il est écrit, voilà pourquoi
C'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Amen.
Verset 22.
Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Amen.
Amen. Tout à l'heure, nous avons lu que l'huile avait pour mission, dans l'ancienne alliance, de sanctifier et de consacrer. Par contre, le sang, lui, dans l'ancienne alliance, avait pour mission, pour but, de purifier. Le sang n'avait jamais été pour protéger qui et quoi que ce soit. C'était pour le péché et c'était pour purifier le péché. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir maintenant, comme l'agneau de Dieu, selon l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 29, où Jean-Baptiste va dire qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque Jésus va donner sa vie à la croix, son sang versé, c'est tout simplement pour que les hommes obtiennent le pardon et la purification de leurs péchés. Donc Jésus-Christ n'a pas versé son sang pour que les gens puissent invoquer cela pour se protéger ou pour protéger les voitures, les maisons, les motos et quoi que ce soit. La Bible nous dit clairement ici, presque tout d'après la loi. Donc même dans la loi, le sang c'était pour purifier et pour le pardon des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, Christ a donné sa vie à la croix comme un sacrifice excellent, parfait et unique pour toujours, pour ceux qui croient en lui. Donc, ne priez plus en invoquant le sang de Jésus. Ce n'est pas pour protéger que le sang de Jésus a été versé, c'était pour purifier nos péchés et pour nous accorder le pardon de Dieu. D'ailleurs, ce que nous pouvons également lire dans 1 Jean chapitre 1, le verset 7. 1 Jean chapitre 1, le verset 7. Qu'est-ce qui est écrit là, frère Yannick?
C'est écrit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché.
Alléluia. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc le sang de Jésus, c'est pour purifier les hommes de leurs péchés lorsqu'ils confessent leurs péchés et qu'ils acceptent que Jésus est déjà mort pour ses péchés. Le sang de Jésus va purifier leurs péchés. Ils ne seront plus condamnés à cause de Jésus qui a versé son sang. Par contre, en ce qui concerne la prière, que ce soit de la bouche même du Seigneur Jésus, que ce soit de la bouche des apôtres, les prières doivent être tout simplement faites au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, Jésus-Christ, avant d'aller dans les cieux, voici ce qu'il va dire à ses disciples. Nous sommes dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 16, les versets 17 et 18. Il est écrit ceci. C'est Jésus qui dit à ses disciples avant de s'en aller dans les cieux. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Souligné en mon nom. Il n'a pas dit en son sang. En mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne les fera point de mal. Ils imposeront leurs mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus est clair. Amen. Il dit en mon nom. C'est clair. En son nom, on imposera les mains aux malades et seront guéris. Donc, lorsque les gens sont malades, on doit tout simplement les imposer les mains au nom du Seigneur Jésus. Lorsqu'on veut chasser les démons, on le fait au nom du Seigneur Jésus. On n'a pas besoin d'invoquer plutôt le sang de Jésus. Ce n'est pas du tout la même chose. Et dans Jean 14, l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 13 et 14. Frère Yannick, si tu as la page, tu peux lire pour nous tous.
Il est écrit.
L'évangile de Jean, chapitre 14, versets 13 et 14, pour ceux qui relèvent.
Il est écrit. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen.
Amen. C'est tellement clair, c'est Jésus-Christ qui parle. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jésus a dit tout. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez en mon nom et ou bien en ajoutant mon sang dessus. Il n'a même pas du tout dit tout ce que vous demanderez au nom d'un ange ou d'une autre personne ou de l'eau ou du sel ou de l'huile. Non. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc les prières que l'on fait en y associant de l'eau, du sel et toute autre chose, c'est beaucoup plus de la magie et de la sorcellerie. Et Colossiens chapitre 3, le verset 17, va dire quoi, frère Yannick? Colossiens chapitre 3, le verset 17.
Il est écrit: et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen.
Amen. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout, tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible est tellement claire. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous devions prier, que nous devions même rendre grâce, faire tout. C'est tellement clair, mesdames et messieurs. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, la Bible va nous dire pourquoi il nous faut faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, pourquoi il faut prier uniquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons être conformes aux Saintes Écritures, si nous voulons vraiment être exaucés selon Dieu. 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, qu'est-ce qui est écrit là, frère Yannick?
Il est écrit: qui veut de tous les hommes, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Verset 5.
Verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme.
Amen.
Amen.
La Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur, ce n'est que Jésus-Christ. Malheureusement, dans beaucoup de milieux religieux, on laisse Jésus-Christ qui est le seul médiateur pour se chercher d'autres médiatrices ou médiateurs. Ce n'est pas normal. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Il n'y a pas un ange. Il n'y a aucune autre personne. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul. La Bible est tellement claire. Donc si vous voulez passer par d'autres médiateurs ou médiatrices pour atteindre le Seigneur Jésus-Christ, sachez que ce n'est plus le vrai Dieu que vous êtes en train de prier. Et d'ailleurs, Romains chapitre 8, le verset 34, va également dire quoi, frère Yannick? Romains chapitre 8, le verset 34.
Il est écrit: qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen.
Alléluia. La Bible nous dit que c'est Christ seul qui est en train d'intercéder pour ceux-là qui croient en lui. Malheureusement, parfois, on demande plutôt aux anges, aux archanges, et qui sais-je encore, d'intercéder pour l'homme. Et pourtant, la Bible est claire et formelle, il n'y a que Christ qui intercède pour les hommes. Lorsque vous priez, sachez que c'est Christ seul qui peut intercéder pour vous. Il n'y a pas une autre personne que la personne qui a des oreilles pour entendre, entendre. Je disais tantôt que parfois les gens, lorsqu'ils entrent dans un véhicule, comment ça dit, je plonge ce véhicule dans le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus. Non, pas du tout. Pour voyager, vous allez prier tout simplement en tenant compte des promesses de Dieu. Par exemple, dans le psaume 121, vous n'avez pas besoin d'invoquer le sang de Jésus sur les véhicules des gens. Lorsque vous voyagez, le psaume 121, voici cette promesse de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit là, frère Yannick?
Il est écrit: je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen.
Amen. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Donc, lorsque tu voyages, si tu pries et foi, que Dieu dit qu'il te gardera à ton départ et à ton arrivée. Alléluia, que c'est tellement merveilleux. Et le psaume 34, le verset 8, va dire, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. La Bible nous dit que c'est l'ange de l'Éternel. Donc, pendant que vous dormez, sachez que si vous craignez Dieu, il y a les anges de Dieu qui sont à votre service pour vous garder. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas, même les chrétiens ne savent pas qu'il y a tellement des anges que Dieu met à leur disposition. Lorsque vous voyagez, lorsque vous dormez, dans tout ce que vous faites, il y a les anges tout autour de vous, en train de veiller sur vous, en train de vous garder, tout simplement parce que vous craignez le Seigneur. Donc, ne pensez pas que c'est en invoquant le sang de Jésus sur vos maisons, sur les voitures, sur les motos, que vous serez en sécurité. Non, ce sont les anges de Dieu qui sont là pour veiller, qui vraiment nous donnent la vraie sécurité. Et nous allons maintenant, en bref, voir que même les disciples du Seigneur Jésus, devant certaines situations, ont prié. Et nous pouvons également nous inspirer de leurs prières. Nous allons voir qu'ils n'ont jamais invoqué le sang de Jésus, et encore moins même le feu. D'ailleurs, c'est ce que nous allons également voir tout à l'heure. Nous sommes par exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du premier verset au verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du premier verset au verset 8. Frère Yannick, si tu es à la page, tu vas lire pour nous tous.
Il est écrit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen.
Amen. Nous voyons aussi un boiteux qui a été guéri par les apôtres. Pas en invoquant le feu de Jésus ou le sang de Jésus, mais au nom de Jésus. Voilà ce qui est écrit, lève-toi et marche. Donc, ils ont appliqué ce que le Christ leur avait recommandé en mon nom, en mon nom. Et en son nom, ils ont fait marcher ce boiteux. Et toujours dans Actes des Apôtres, chapitre 16, cette fois-ci, à partir du verset 16 au verset 18, écoutez très bien, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16 au verset 18. Comme nous allions au lieu des prières, une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen.
Amen.
Nous voyons ici une femme qui était possédée, qui avait un esprit de python. Et au nom de Jésus-Christ, l'apôtre Paul va ordonner à cet esprit de sortir de cette femme, au nom de Jésus. Pas en invoquant le sang de Jésus ou quoi que ce soit. Et je voudrais ouvrir une petite parenthèse en disant ici que beaucoup de gens ont l'esprit des pitons, des divinations. Et parfois on pense que c'est un esprit des prophéties, la divination. Les marabouts sont capables de faire la divination, de dire des choses qui vont arriver. C'est l'esprit des pitons. Et même dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ont cet esprit des pitons. Parfois on confond avec l'esprit des prophéties, dont les gens peuvent dire des choses qui arrivent, mais qui ne viennent pas de Dieu. Cette femme disait que l'apôtre Paul et Silas étaient des serviteurs du Dieu Très-Haut. Ce qu'elle disait était vrai, mais c'est l'esprit des pitons, l'esprit des divinations qui l'a poussée à dire cela. Donc, il ne faut pas confondre. Des gens peuvent vous dire des choses qui sont réelles, vraies. Peuvent même deviner des choses vous concernant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des prophètes ou des prophétesses. La plupart des temps, c'est un esprit de divination, de python. Oui, c'est important de souligner certaines choses. Parce que dans beaucoup d'assemblées, les gens se font berner par cet esprit de divination et en croyant que c'était un esprit de prophétie. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours à l'écoute de l'air de la vérité. La question c'était, doit-on prier en invoquant le sang de Jésus ou le feu, ou même le feu du Saint-Esprit? Nous avons vu clairement que, à la lumière des Écritures, le sang de Jésus a été versé pour nos péchés. Et par rapport à la prière, la Bible est suffisamment claire. Nous allons prier tout simplement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, doit-on prier en invoquant le feu? Parce qu'on comprend généralement les gens invoquent le feu du Saint-Esprit, le feu pour consumer les démons, le diable, les sorciers. Est-ce que c'est biblique? C'est vrai que dans 2 Rois, chapitre 1, à partir du verset 9 au verset 12, nous allons voir un prophète de Dieu qui va invoquer le feu, qui va descendre et consumer les hommes. Et parfois, beaucoup s'appuient sur cette portion des Écritures pour pouvoir invoquer le feu sur les gens, ou même sur les sorciers. Qu'est-ce que Jésus va dire à ce sujet, le maître? Nous sommes dans Luc, chapitre 9, à partir du verset 51 au verset 56. Écoutez attentivement ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire à ses disciples qui vont essayer de vouloir invoquer le feu, pour que ça descende et consume certaines personnes. Nous sommes dans Luc chapitre 9, à partir du verset 51 au verset 56. Frère Yannick, que si tu es à la page, tu peux lire pour nous tous.
Il est écrit, « Lorsque le temple où il devait être enlevé du moment approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et ancrèrent dans un bout de Samarie. » pour lui préparer un logement. Mais on ne lui reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bouc. Parole du Seigneur.
Amen. Nous voyons ici le Seigneur avec ses disciples qui voulaient invoquer le feu du ciel pour consumer certaines personnes. Jésus va les reprendre sévèrement en leur disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Je suis venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Pour dire que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Même les sorciers, Dieu veut les sauver. Pendant qu'ils sont encore en vie, Dieu veut qu'ils parviennent à la repentance et au salut. S'ils meurent dans les péchés, tant pis pour eux. Mais Jésus dit qu'il est venu pour sauver les gens et non les perdre. Et dans 2 Pierre, chapitre 3, 2 Pierre, chapitre 3, particulièrement le verset 7, va nous dire ceci. Mais, par la même parole, les cieux et la terre à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc, dans cette portion de Sainte Écriture, la Bible nous dit qu'il y a un jour, le jour du jugement, où le feu attend vraiment les hommes impies, ceux-là qui ne veulent pas se repentir, même les méchants, même les sorciers. S'ils ne se repentent pas, il y a ce jour qui les attend, où ils n'échapperont point au feu du jugement de Dieu. Et en entendant, Dieu n'a demandé à personne d'invoquer le feu sur la terre pour consumer les hommes. Et il y a aussi cette question, est-ce que c'est toujours lié à la prière, bien entendu? Est-ce qu'on doit prier en liant le diable ou les démons? Et en général, les gens s'appuient sur l'évangile de Matthieu, chapitre 18, où Jésus a dit que tout ce qui sera lié sur la terre sera également lié dans le ciel. Parfois, c'est en se basant sur cette portion des Écritures que les gens lient les démons, lient le diable et ainsi de suite. À vrai dire, on ne voit nulle part dans les Saintes Écritures où Jésus, qui a tellement chassé les démons, lié les démons, ou même le diable, ni les apôtres non plus. Mais si nous revenons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, et si nous lisons attentivement cette portion des Saintes Écritures, nous allons voir que lorsque Jésus parlait que tout ce qui sera lié sur la terre sera également lié dans le ciel, ça n'avait aucun rapport avec ni les démons, ni le diable. Frère Yannick, si tu es à la page, tu vas lire pour nous tous. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 15 au verset 18.
Il est écrit: si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen.
Amen. Nous voyons ici que dans cette portion de Saintes Écritures, c'était en rapport avec la discipline. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que lorsque quelqu'un pêche dans l'église, si on va vers lui, on l'avertit. S'il ne veut pas changer, on prend un ou deux témoins. Et s'il ne veut pas toujours changer, on porte l'affaire devant toute l'église, toute l'assemblée. Et s'il ne veut pas toujours se repentir et changer, on va le considérer désormais comme un païen. C'est-à-dire, il doit être excommunié de l'assemblée. Et c'est à partir de là que Jésus dit que cette décision que vous allez prendre sera considérée au ciel. Donc voilà le contexte où Jésus a dit que tout ce qui sera lié sur la terre sera également lié dans le ciel. Ça n'avait aucun rapport ni avec le diable, ni avec le démon. Oui, nous sommes là pour essayer d'éclairer les gens à la lumière des Saintes Écritures. Parce qu'il est écrit que Dieu soutient toutes choses par sa parole. C'est lorsque nous faisons des choses selon la parole de Dieu que nous pouvons être sûrs que Dieu est vraiment avec nous et qu'il approuve tout ce que nous faisons. Malheureusement, parfois, l'ignorance nous fait faire des choses qui ne sont pas conformes aux Saintes Écritures. D'ailleurs, si les démons et le diable pouvaient vraiment être liés, c'est qu'il n'y a plus de démons, le diable sur la terre. Parce que c'est tous les jours que les gens lient les démons et le diable. Et si les gens lient le diable et qu'il n'est pas toujours lié, ça veut dire que cette prière n'est pas biblique. Par contre, le Seigneur nous a donné l'autorité, le pouvoir de pouvoir chasser les démons et le diable et non le lier. Jusqu'à présent, le diable a une certaine liberté. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens peuvent les chasser et même les résister. Par exemple, si nous lisons dans Apocalypse chapitre 20, à partir du premier verset au verset 3, la Bible nous dit clairement que un moment viendra où c'est Jésus lui-même qui se chargera de lier le diable. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 20, à partir du premier verset au verset 3. Donc tant que ce moment n'est pas venu, personne ne peut lier le diable ni les démons sur la terre. Par contre, ils peuvent les chasser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Apocalypse chapitre 20, à partir du premier verset au verset 3, vous pouvez relever et après vous pouvez vérifier. Je peux lire particulièrement, si vous voulez, le verset 3, où il est écrit: il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Le premier verset dit: puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, c'est le verset 2, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia. Donc ce moment viendra. C'est le Seigneur lui-même qui se chargera de le faire avec ses anges. Vous écoutez toujours l'heure de la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Nous sommes en train de nous intéresser aux questions que des multitudes se posent. Et il y a également cette autre question qui n'est pas la moindre. Avec la multitude des religions et d'églises qui a sur la terre, comment reconnaître une bonne et une vraie église? Oui, c'est une très très bonne question. Avec les multitudes des religions et d'églises qu'il y a sur la terre, comment reconnaître une vraie église parmi toutes ces multitudes des religions et églises? Déjà, le mot église veut dire tout simplement ecclésia. Et ecclésia veut dire assemblée appelée ordre. Donc l'église, selon la Bible, c'est une assemblée de personnes qui sont appelées un jour à sortir du monde. Et ce n'est plus et ni moins que ceux-là qui ont accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est cet ensemble qui forme l'église du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, de façon locale, lorsque les gens s'implantent et déclarent qu'ils sont l'église du Seigneur Jésus, comment reconnaître maintenant ces assemblées si réellement ce sont vraiment des assemblées chrétiennes bibliques, ce sont des vraies églises? Déjà, pour reconnaître une bonne église, pour dire vrai, à la lumière des Saintes Écritures, il y a très peu d'assemblées chrétiennes qui fonctionnent vraiment selon les Saintes Écritures. Très peu. Déjà, une église biblique doit reconnaître que c'est Christ qui est le chef, le fondateur, le bâtisseur. Donc, si vous êtes dans un milieu où ce n'est pas Christ qui est le chef, qui est le fondateur, qui est la tête, sachez que vous n'êtes pas dans une bonne église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous vous retrouvez par exemple dans une église où on est en train de vénérer un homme, on est en train de glorifier un homme plutôt que de glorifier le Christ, vous devez sortir rapidement. Parce que si Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, je bâtirai mon église, il est censé être le chef. Et c'est lui seul qui doit être honoré, exalté, acclamé et adoré. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, il a clairement dit, « Je bâtirai mon église. » Et Colossiens chapitre 1, le verset 18, nous dit que Jésus-Christ est le chef, la tête. Le chef est la tête de l'église. Également Ephésiens 1, les versets 22 et 23. Frère Yannick, si tu trouves au moins une portion de Saintes Écritures dans cette série, tu vas lire pour nos auditeurs et auditrices.
Colossiens
1, le verset 18, par exemple. Ou Ephésiens 1, verset 22, 23, pour ceux qui notent.
Il est écrit...
Il est écrit quoi?
Il est écrit... Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen.
Amen. Il est le chef, il est la tête. Il doit être en tout le premier. Donc le Christ doit être le seul à être élevé, exalté et glorifié dans une église. Malheureusement, dans beaucoup d'églises, on exalte les hommes, on exalte les anges, on exalte je ne sais pas trop quoi. Si vous êtes dans ce genre de milieu, sachez que vous n'êtes pas dans une bonne église. Une bonne église, c'est une église où Jésus-Christ est adoré, parce qu'il est Dieu. Si Jésus-Christ n'est pas adoré dans votre assemblée, c'est qu'il y a un problème. Vous devez réfléchir mûrement, sortir de cette église. Parce que si Jésus est le chef, le fondateur, pourquoi est-ce qu'il ne doit pas être adoré? D'ailleurs, la Bible nous dit par exemple dans Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 28. Écoutez attentivement. Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 28. Je lis ceci pour nous tous. Prenez garde. La Bible s'adresse ici aux dirigeants de l'église. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu. Comprenez bien, l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. La Bible nous parle de l'église de Dieu et la Bible nous parle aussi de l'église de Jésus-Christ. Donc, il n'y a qu'une seule église sur la terre. L'église de Jésus ou l'église de Dieu, c'est la même chose. Alors, la Bible nous dit que Dieu lui-même s'est donné pour son Église. Il a versé son propre sang. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu incarné qui s'est donné pour son Église. Alors, si c'est lui qui s'est donné pour son Église, si l'Église est vraiment une Église biblique, Jésus-Christ doit être adoré. Et dans Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 8 au verset 14, la Bible nous dit clairement que Dieu ou Jésus-Christ, ou Dieu et Jésus-Christ sont adorés jour et nuit dans le ciel. Bien entendu, si Jésus-Christ est adoré dans le ciel jour et nuit, il doit être adoré dans son Église sur la terre. Frère, que si tu as la part, tu vas lire. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 8 au verset 14. Il est écrit quoi?
Il est écrit: quand il prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe.
Comprenez très bien, se prosterner devant l'agneau. L'agneau ici, c'est Jésus.
Tenant chacune une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, des myriades, des milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau: soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient amen, et les vieillards se prosternaient et adorèrent. Amen.
Amen. Donc dans les cieux jour et nuit, le Christ est adoré. Sur la terre, il doit être également adoré. Compte tenu du temps, nous allons continuer à nous intéresser particulièrement à cette question: comment reconnaître une bonne église. Et je tiens, avant de nous séparer, de dire que toutes les religions disent que, ou chacune des religions dit que, c'est moi qui suis la meilleure. Je suis la seule vraie religion, je suis la seule vraie église. D'ailleurs, prochainement, nous allons lire les déclarations de beaucoup des systèmes religieux, des dénominations. Et lorsque nous allons lire les déclarations, chaque fois qu'un mouvement religieux naît, ce mouvement prétend être la seule qui détient la vérité, ce qui n'est pas vrai. Parce que s'il y a déjà 5, 6, 10, 20 organisations religieuses qui prétendent être détentrices de la vérité, ça veut dire que ce n'est pas vrai. D'ailleurs, le Seigneur le permettant, nous allons vraiment lire les déclarations et à partir de là, vous allez être édifiés et vous allez savoir également comment choisir une bonne église à la lumière des saintes Écritures. Compte tenu du temps, Frère Yannick, est-ce que tu as un dernier mot? Nous allons nous séparer d'un moment à l'autre.
Je vais tout simplement encourager les frères et sœurs d'être connectés et encourager les jeunes vraiment de se concentrer pour servir le Seigneur avec leur jeunesse. Dieu serait tellement honoré le fait qu'ils vont consacrer vraiment leur jeunesse pour le servir. Amen.
Amen. À mes côtés, il y avait le frère Yannick Nankep. Quant à moi, je suis, je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur. Que la bonne main du Seigneur soit sur vous. Surtout, ne gardez pas surtout ce message pour vous seul. Et surtout, ayez tous les regards fixés sur le Seigneur et gardez la foi. Et à bientôt. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. PasteurRodrigue.com.
Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros des 00 237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NJENDJI. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.